J'espère que vous avez passé une super journée et bonnes vacances pour les chanceux qui en profitent. Ce soir, dans La Quotidienne, nous vous proposons un reportage réalisé par Antoine et Juliette en deuxième partie d'émission, suivi de la chronique culturelle de Gwen, bien sûr. Mais nous commençons notre émission en recevant Amélie, chef de projet en art visuel pour la mairie de Brest. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Zoé.
Donc avec vous, on va parler des ateliers artistiques, l'art en pratique que la Maison de la Fontaine propose, qui ont débuté ce lundi et qui auront lieu jusqu'au 21 juin. C'est ça. Donc est-ce que c'est la première fois que la Maison de la Fontaine organise ce genre de projet ?
Effectivement. D'ordinaire, la Maison de la Fontaine accueille plutôt des expositions, entre 3 et 4 expositions par an. Et cette fois-ci, on a eu envie de tester une nouvelle façon de créer des rencontres en fait, entre les artistes et les publics, de manière à ce que les gens ne soient pas juste spectateurs d'une exposition qui leur serait proposée, mais bien qu'ils puissent venir rencontrer très concrètement les artistes et puis se rencontrer surtout autour de techniques et de pratiques artistiques différentes. Donc, on a essayé justement de pouvoir proposer une diversité de techniques et l'occasion de se réunir autour d'une table avec des artistes et puis d'apprendre et de partager ensemble.
Et justement, comment est-ce que vous avez fait appel à ces artistes ?
Alors, il se trouve que la ville de Brest, depuis quelques années, met des ateliers à disposition d'artistes au sein de l'ex-cercle naval qui est basé rue du Château. Depuis quelques années, donc, des artistes peuvent répondre à des appels à candidature chaque année. Et on leur met à disposition des espaces qui leur permettent de travailler et de poursuivre la construction de leur parcours professionnel. Ils sont 17 hébergés dans cette résidence. Et la majorité des ateliers qui sont proposés ici sont proposés par ces artistes qui sont en résidence actuellement. Alors, pas que, mais la majorité, effectivement, de la programmation viennent de leurs propositions et de leurs univers.
Pardon. Une petite quinte de toux. Pardon.
Tout va bien, Zoé. Alors, je peux continuer si vous voulez.
Je veux bien, désolée.
Donc, on a une diversité de propositions. Depuis donc le début de la semaine, vous le disiez, c'est le Musée des Beaux-Arts qui propose des ateliers sur la période des vacances scolaires. Et puis, à la fin des vacances scolaires, ce seront d'autres ateliers qui sont effectivement proposés par ces artistes dont je parlais.
Donc il y a des ateliers enfants, une partie, et des ateliers... qui ne sont pas seulement pour les enfants, donc les adultes y auront accès aussi, c'est ça ?
Tout à fait. On a essayé de faire en sorte, effectivement, de pouvoir faire des propositions qui peuvent toucher le plus grand nombre de personnes. Les ateliers qui sont proposés par le Musée des Beaux-Arts sont uniquement destinés aux enfants, mais quasiment toutes les autres propositions d'ateliers, les adultes sont également les bienvenus. On a spécifié systématiquement les tranches d'âge, puisqu'il y a des propositions qui nécessitent d'être un petit peu plus manuelles, en tout cas plus à l'aise aussi dans le côté pour attraper des choses, construire des choses. Mais on aimerait bien faire en sorte que justement, il y ait du monde qui puisse se mélanger de tous les âges.
Est-ce que dans l'appel à un projet, entre guillemets, auquel les artistes ont répondu quand ils ont proposé leurs ateliers, il y avait des thèmes en particulier qui était proposé ou est-ce que c'était totalement libre aux artistes ?
C'était open bar. Vraiment, j'ai lancé cette proposition-là aux artistes. Alors, effectivement, à celles et ceux qui sont au Cercle Naval, mais également à d'autres artistes que j'avais pu avoir l'occasion de rencontrer. C'est le cas notamment pour l'atelier qui s'appelle Persistante, où là, c'est la poursuite d'un travail qui a été initié l'année dernière, l'été dernier, avec Perrine Dové et Ariane Mercier qui étaient à l'ESAB et qui ont créé une œuvre qui est aujourd'hui encore dans l'espace public. Donc, on avait envie de poursuivre ce travail-là et donc elles vont proposer un temps de découverte de la céramique, par exemple. Et après, vraiment, j'avais... juste fait cette proposition-là et justement, ce que je trouve intéressant, c'est toute cette diversité de propositions. Il y a de la construction, il y a du dessin, il y a du modelage, il y a du tissage. Donc, en espérant que ça puisse donner envie au plus grand nombre.
Est-ce qu'une fois que tous ces ateliers seront passés, à la fin de la période, est-ce qu'il y a une restitution qui est proposée, au moins du moins un visuel qui pourrait être vu de ce qui a pu être créé pendant les ateliers?
Alors, j'aimerais beaucoup. Donc, j'ai ça en tête, effectivement. C'est vrai que pour l'instant, vu qu'on est sur une expérimentation, on va attendre de voir un petit peu ce qui est conçu. Il se trouve qu'il y a des ateliers qui vont conduire à la réalisation de choses qui peuvent être collectives. C'est le cas avec la proposition de Marie Berthoulou, qui fait de l'orfèvrerie textile et qui va en fait concevoir au rythme des ateliers, travailler sur le même support. Donc, ça veut dire qu'effectivement, arrivé au mois de juin, on aura une œuvre de tissage qui aura été une œuvre collective. Et j'aimerais bien, effectivement, qu'avec tout ce qui aura pu être réalisé, on puisse effectivement faire un temps de restitution.
Pardon. Est-ce que vous pouvez nous parler des prochains ateliers à venir là, dans les semaines qui suivent peut-être ?
Alors, donc, comme je le disais sur la période des vacances scolaires, donc cette semaine et la semaine prochaine, ce sont des ateliers proposés par le Musée des Beaux-Arts, donc exclusivement pour les enfants, avec des publics 5-7 ans ou 8-11 ans. Et ensuite, on va démarrer l'autre partie, je dirais, de la programmation à partir de mi-avril, avec notamment le démarrage de ce travail par Marie autour du tissage. Donc ça, ce sera le mercredi 16 avril après-midi. Donc je précise que tous les ateliers ont lieu à la Maison de la Fontaine. Ensuite, on aura Harmonie chromatique par Emma Rostin qui va amener à travailler sur la peinture, sur notamment la texture, travailler autour de comment est-ce qu'on compose une palette de couleurs à partir des couleurs primaires et puis qu'est-ce qu'on fait ensuite de sa propre palette de couleurs. Et puis dans la suite du mois d'avril, effectivement persistante, dont je parlais tout à l'heure, où là c'est le travail de céramique en fait. Comment est-ce qu'on crée à partir de la céramique. On aura également un atelier autour de l'animation vidéo, du stop motion, où là c'est Marie Cizorn qui va allier deux techniques, d'une part le modelage et puis l'animation vidéo pour pouvoir composer un petit film en stop motion avec les participants et participantes.
Est-ce que pour ces ateliers, pour ceux qui seraient peut-être intéressés d'y participer, est-ce qu'il reste des places dans ces ateliers-là ?
Oui, il reste des places. Alors, pour s'inscrire, ce qui concerne les ateliers avec le Musée des Beaux-Arts, les inscriptions se font directement avec le Musée des Beaux-Arts. Tous les ateliers qui vont suivre derrière, vous pouvez vous inscrire directement sur bresse.fr. Vous allez dans l'agenda de bresse.fr. Chacun des ateliers a une page dédiée et vous pouvez, en quelques clics, vous inscrire directement pour participer. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. C'est vraiment une première expérimentation qu'on est très content de pouvoir proposer. Et on espère que ça va pouvoir donner envie aux gens. Et puis, c'est l'opportunité aussi pour certains et certaines de venir découvrir la Maison de la Fontaine. Donc, voilà.
Étant donné que là, c'est la première fois que ces ateliers ont lieu et que c'est sur une période d'environ 2 mois, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez peut-être pouvoir à l'avenir faire à l'année, pouvoir retrouver sur un plus long terme ?
Eh bien, on fera le bilan. Au terme de cette première expérience, on pense que c'est un très joli moyen de créer de la rencontre. C'est vraiment l'objectif là, derrière ce projet-là. Peut-être de rendre plus accessible aussi dans les représentations qu'on peut avoir du milieu artistique et des artistes en général. Là, notre volonté, c'est de faire en sorte peut-être de faire tomber un petit peu ces clichés, ces représentations qu'on peut avoir les uns les unes et les autres, hein, sans jugement du tout. Mais donc, on fera le bilan effectivement au terme de ces quelques mois de test. Et puis, si le bilan est positif, on sera ravis de pouvoir imaginer ça à d'autres moments, bien sûr.
Pourquoi est-ce que c'était vraiment important pour vous de faire appel à ces artistes locaux qui viennent du cercle naval, pardon. Pourquoi eux en particulier ?
Parce que ce qu'on leur propose, ce n'est pas uniquement une mise à disposition d'espaces de travail. C'est déjà très important de pouvoir la mettre à disposition des espaces de travail parce que c'est très compliqué. Le statut d'artiste plasticien, c'est très difficile de travailler de chez soi. Et donc déjà, on peut leur proposer ça, mais il y a aussi cette volonté de pouvoir les accompagner aussi dans la construction de leur parcours professionnel. Il y a beaucoup d'artistes à Brest. On a une des antennes de l'école d'art, de l'ESAB, qui est ici. On a envie qu'ils puissent continuer à travailler aussi sur le territoire. C'est important de ne pas avoir envie de partir. Après, il y a plein d'expériences à vivre ailleurs, mais c'est vrai que on a envie de pouvoir proposer des conditions accueillantes et adaptées aussi pour qu'ils puissent construire continuer leur travail de création ici. Donc voilà, ça fait un petit peu partie du process de se dire comment est-ce qu'on peut soutenir la création artistique à Brest en proposant ce type d'initiative.
Merci beaucoup Amélie.
Merci à vous.
Présenter donc les ateliers artistique l'art en pratique, donc qui auront lieu à la Maison de la Fontaine. Et il reste plein de places pour plein d'ateliers différents, donc n'hésitez pas à vous renseigner et à regarder ce qui vous plaît. Voilà.
Merci Zoé. Beaucoup.
Voir la petite pause musicale avant de passer au reste de l'émission. C'était Chuck Cherry avec Messy Star sur Radio U. Vous écoutez toujours C'est vous qui le dites. Et en cette deuxième partie d'émission, mardi 1er avril est organisée une journée du bien-être parental à la Fac de Lettres par la ville de Brest. Anton et Juliette sont allés sur place pour discuter avec les parents, les organisateurs et les étudiants. C'était l'occasion de découvrir ce qu'est la parentalité. Écoutons les témoignages.
Je m'appelle Flavie, je suis brestoise depuis 8 ans et maman d'un petit marin qui est né il y a 2 mois. Alors je suis là parce que j'étais un peu curieuse, j'ai entendu parler de cette journée, bien-être pour les parents. Et en tant que jeune parent, je me suis dit que ça pouvait peut-être m'être adressé. Et en arrivant, du coup, j'ai vu qu'il y avait plein d'ateliers organisés ici, justement pour les parents. Donc c'était l'occasion, un peu par curiosité, et puis pour retrouver des copines aussi à qui j'avais donné rendez-vous ici, d'autres mamans aussi.
Donc moi, je suis Nadia Lazouzi, je suis chargée de projet jeunesse à la mairie de Brest. Je copilote avec deux collègues de la CAF, un des chantiers prioritaires transversal de la ville de Brest, qui est le chantier parentalité. Dans ce cadre-là, en fait, on a fait un travail de recueil des besoins des professionnels et des parents. En sont ressorties 5 commissions de travail, dont la commission répi parental. Une journée bien-être, ça a l'habitude de s'organiser, mais plutôt ça reste dans le quartier, donc dans une structure. Et là, l'enjeu, que ce soit travaillé dans le cadre d'un projet soutenu par la ville de Brest, c'était vraiment de le travailler en transversal. Donc de réunir toutes nos forces, toutes les structures, toutes les mamans de différents territoires, et vraiment de faire une journée bien-être au centre-ville, parce que c'était un lieu central. Et donc voilà, l'idée de cette organisation est venue comme ça.
Alors je m'appelle Lauréliane Lullier, je suis maman de 3 enfants et j'ai participé avec Grandir à Brest qui a été proposé par Brest, si je ne me trompe pas. Il y avait des ateliers et on demandait aux parents qu'est-ce qui manquait en tant que parents à Brest. Et il y a eu plusieurs groupes qui se sont créés, notamment un qui était sur le répit parental et j'avais choisi de travailler là-dessus et en parlant, donc moi je suis juste maman bénévole et donc il y avait des intervenantes d'un peu toutes les structures de quartier de Brest qui étaient là et en discutant on est venu à se dire et si on faisait une journée bien-être pour les parents brestois pour, à l'échelle de la ville quoi. Donc, ça avait déjà été fait à l'échelle d'une structure mais pas à l'échelle de la ville. Au départ, moi je pensais plus pour les autres, je disais oh, chouette ça va être bien, on pourra parler autour de moi et tout et puis quand elles m'ont dit non mais c'est pour toi aussi. Ah oui, parce qu'on voit toujours qu'il y a pire que soi, mais on ne se rend pas compte que ben, nous aussi, on a le droit en fait, à du répit parental. Et je trouve que c'est important d'avoir ce genre d'endroit et de moment, parce que quand on est dans le rush et dans la tête dans le guidon, on ne se rend pas compte de notre rythme de vie. C'est notre norme et on ne se rend pas compte qu'on fonce droit dans le mur. Enfin, voilà, moi, je sors de 2 ans de dépression et épuisement parental, donc... Je sais que c'est important d'avoir des choses qui nous font du bien et des journées comme ça peuvent se dire « Ah oui, mais en fait, ça m'a fait du bien. » Et si je le refaisais, et par eux-mêmes, c'est déjà un premier pas, en tout cas, vers le bien-être, quoi.
Alors moi, je m'appelle Aurélie, je suis infirmière. Et ici, en fait, on est venu sur cette journée dédiée aux parents pour proposer des dépistages du souffle. Alors nous, depuis 3 ans maintenant, avec le dépistage de la BPCO, qui est la bronchite dite des personnes qui sont fumeuses, l'idée c'est de s'inscrire dans un domaine de la prévention et de réussir à accueillir des personnes sur notre stand pour justement leur donner des messages de santé publique et de prévention santé. D'un point de vue, s'ils sont usagères du tabac, donc voilà les recommandations que on peut donner avec l'HAS. On est très, on essaie d'être fidèle, en tout cas aux recommandations d'actuelles, comme des messages en santé publique comme l'alimentation, l'activité physique, la vaccination, tout ce qui peut finalement aller avec notre santé globale. Voilà.
Donc moi c'est Charlène, je travaille au service ICO informé et accompagné vers l'emploi. Il fait partie de l'association Sato Relais. Et aujourd'hui, on a pris part à l'organisation de la journée bien-être et on tient un stand éco-gestes, réemploi, avec notamment cet après-midi 2 habitantes.
Alors moi je m'appelle Claire Morin, je suis une des habitantes qui a participé au projet d'ICEO. Donc deux projets, là donc vous avez vous sous les yeux l'enquête sur les éco-gestes au quotidien. Donc c'est un livret qu'on a réalisé avec un groupe d'habitants pour parler des éco-gestes. Donc, voilà, donc ça, on est tout un groupe d'habitants, on crée nos propres tenues pour le défilé et en tant qu'artiste, j'ai animé aussi des ateliers d'écriture avec les habitants pour écrire un texte sur le handicap invisible.
Moi, c'est Faracha, je suis couturière, je suis participante de ce projet. Il y a Charlène qui nous encourage à tout faire pour soutenir ce projet. Merci beaucoup.
Du coup, c'était important pour nous de participer à la journée autour du bien-être et du répit parental. Et ici, sur le stand, on est plus sur l'aspect loisirs créatifs qui peuvent être source aussi de bien-être, de détente, etc.
Ce matin, on y était aussi. Donc, il y a l'atelier, la partie couture cet après-midi avec Faracha. Donc là, avec des tissus récupérés, elle est en train de créer une tenue, une robe, c'est ça ?
Oui, 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 c'est une robe. Oui.
Et ici, on a la partie plus éco-gestes, toujours liée au réemploi, ou par exemple avec des chaussettes solitaires ou des chaussettes trouées. On fait des petites bandes comme ça et on peut en faire des éponges réutilisables.
Est-ce que vous avez eu des retours de parents ? Quelles ont été les interactions un peu que vous avez pu avoir avec les parents ?
Alors, avec les parents, on en a eu très peu pour le moment, pour être honnête. Voilà, ils sont occupés à aller se faire masser, à se faire coiffer, enfin, en tout cas, de ce bien-être-là. Néanmoins, on en a reçu quelques-uns. Et ce qui est intéressant, c'est comme pour les personnes qui ont organisé aussi cette action et cette journée, finalement, on reçoit tout le monde. Et l'idée, c'est que, voilà, comme ils nous disent, finalement, on réduit un peu les distances. Comme on est là, on est finalement des professionnels de santé, on est bien à même aussi de pouvoir accueillir les personnes dans toute confidentialité, dans un moment aussi qui nous appartient. Notre accompagnement sur cet instant-là aura toujours un sens. Donc l'idée, c'est après de le déployer au maximum, quelle que soit la population finalement.
Tout à l'heure, on avait un groupe de mamans qui était autour de la couture avec Faracha, qui nous disait que c'était très utile finalement d'apprendre à réparer ses vêtements, refaire un pli quand on a des trous, apprendre à réparer soi-même. Et ça évite de faire appel à un service payant ou autre.
Le dessin, ça peut créer beaucoup de détente et de bien-être. Alors personnellement, entre guillemets, je ne dessine pas, je ne sais pas dessiner. Mais par les dessins automatiques, des trucs tout simples comme comme des feuilles et des ronds, des choses comme ça, ça vide l'esprit, ça nous permet de nous recentrer sur quelque chose et éviter d'avoir tout le temps le petit vélo qui tourne dans la tête avec tout ce qu'on a à faire, la charge mentale, ce genre de choses.
On a eu effectivement beaucoup de passages, principalement féminins. Ce n'était pas l'objectif. Hein. La communication, on a bien axé sur les parents brestois et pas les mamans. Voilà. Dans les faits, effectivement, peut-être que c'est le choix des ateliers, je ne sais pas, mais qui a plutôt séduit les mères. On a eu beaucoup de passages. Donc c'est vrai que là, je ne peux pas vous dire combien de papas il y a eu. Je sais que j'ai au moins vu deux ou trois messieurs. Voilà, mais non, la journée était vraiment ouverte à papa, maman. Et dans les faits, effectivement, c'est principalement féminin, mais non, en tout cas, c'était ouvert.
Break the bottom out loud.
C'était Julie, Stuck in a Car with Angels sur Radio U. Et avant de se dire au revoir, comme tous les mercredis, c'est le moment de la chronique de Gwen. Salut Gwen.
Bonsoir.
Donc, pas grand-chose au cinéma en ce moment. Tu t'es laissé tenter par le nouveau drame social de Mike Leigh, intitulé Deux Sœurs, mais ça n'en valait pas vraiment la peine.
On connaissait ce réalisateur britannique pour avoir remporté la Palme d'Or en 96 avec Secret et Mensonge, un drame social à la Ken Loach, en plus énervé, plus fiévreux, porté par le jeu virevoltant des deux actrices et leurs dialogues ciselés. En connaissant un peu ce cinéma-là, ces comédies dramatiques, faites de pulsations, d'intensité vocale, mi-mélo, mi-rigolo, on savait un peu à quoi s'attendre en allant voir sa dernière version. Elle raconte le rapport entre deux sœurs aux personnalités complètement opposées, l'une calme et posée, gère son salon de coiffure en toute tranquillité, tandis que l'autre, grinçante, grincheuse, cynique, désagréable, passe sa vie à ronchonner, à se plaindre, à reprocher, accuser chacune des personnes qu'elle croise dans sa médiocre journée. Peut-être que sa famille peut la comprendre, en particulier cette sœur, mais pour le spectateur qui heureusement ne fait pas partie de sa famille, l'expérience est juste douloureuse, si ce n'est traumatique. Il devient rapidement insupportable de subir les vociférations permanentes de ce personnage ingrat et féroce, qui ne suscite pas la moindre tendresse, et l'excès ne provoque pas non plus la moindre drôlerie. D'un point de vue formel, c'est juste plat et banal. Le réalisateur ne semble finalement avoir aucune réelle intention et on se demande même si à 83 ans, à l'instar d'un Spielberg en fin de carrière, ce film n'est pas avant tout le produit d'une équipe de tournage lambda et de son chef opérateur qui, sans direction d'acteur précis, se contente de reproduire des codes éculés. La bande-son n'arrange rien, elle donne tout juste l'impression d'une série bas de gamme. Pour ne rien arranger, je n'arrive pas à m'habituer à la présence de gros SUV dans les rues, d'iPhone dernier cri dans les mains des protagonistes, parce que tous ces signes ultra-contemporains crachent justement le réel à la gueule du spectateur, nous rappellent à quel point ce cinéma est neuf, et neuf au sens péjoratif, au sens où il manque cruellement de charme, d'effet, au fond de style. Finalement, alors que le personnage grandiloquent semble gober tout l'espace, reste un individu, dont la discrétion apparaît comme un remède. Une des seules qualités du film, c'est d'avoir su glisser cette présence sourde qui pourrait apparaître comme secondaire, mais qui est peut-être finalement le seul récit intéressant. On finit par s'identifier à ce jeune homme obèse et quasi muet qui ne semble avoir aucun espace à lui face à cette mère asphyxiante, si ce n'est dans l'exutoire que peuvent être la bouffe et le jeu vidéo. Mais c'est bien sûr le destin. C'est sur le destin de ce personnage que s'achève le film. Et puis le secondaire, le timide, finit donc par prendre le pas sur l'énormissime.
Tu nous conseilles plutôt d'aller voir le dernier film de Guillaume Braque, Ce n'est qu'un au revoir.
Oui, parce que finalement, à choisir le réalisme et le social, pourquoi s'embêter à produire de la fiction et de l'artificiel ? La question du jeu d'acteur n'a plus de sens quand la caméra permet de capter avec fébrilité et vérité les questionnements d'une jeunesse qui hésite, qui est dans l'errance face aux choix personnels, quelles études, que faire de sa vie, mais extrêmement mobilisé face aux questions environnementales. C'est aussi un peu le portrait carte postale d'une France éternelle dans sa ruralité charmante, filmée en 4/3 comme pour être diffusée sur une télé cathodique. Peut-être le retour en force de l'authentique et de l'analogique face au virtuel.
Enfin, tu nous signales en ce début de printemps le dernier album de RSF consacré au photographe dada et surréaliste Man Ray.
Publié une à deux fois par an depuis le début des années 90 par l'ONG Reporters sans frontières, qui œuvre pour la liberté de la presse partout dans le monde, chaque album est un peu un événement en soi. En tout cas, c'est une parution conçue pour durer, qui entre dans une prestigieuse collection intitulée « 100 photos pour la liberté de la presse ». Man Ray, c'était ce photographe et peintre d'abord rattaché au mouvement Dada aux États-Unis avant de rejoindre les surréalistes à Paris. Et feuilleter ce numéro, c'est avoir un aperçu de ses différentes facettes, entre abstraction formelle et sculpturale, portraits sublimes des personnalités de son temps comme Luis Buñuel, et puis des nus qui évoquent le geste d'un peintre, et bien sûr parmi toutes ses influences, ce goût pour l'incongru qui n'est jamais pure provocation, mais plutôt invitation à métamorphoser notre regard sur les objets, les formes et les êtres pour y voir comme une correspondance.
Merci beaucoup Gwen. Et nous on se dit au revoir et on se retrouve demain pour une nouvelle émission sur Radio U, même heure. Bonne soirée à toutes et à tous.